Matthieu, chapitre 15. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus, disant : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain. Mais lui répondant leur dit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de vos traditions ? Car Dieu a commandé, disant : Honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourras tirer profit de ma part est un don, et il n'honorera point son père ou sa mère. Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant : Ce peuple m'honorera des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et ayant appelé la foule, il leur dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Alors ses disciples, s'approchant, lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? Mais lui répondant, dit : Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et Pierre répondant, lui dit : Expose-nous cette parabole. Et il dit : Et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans le lieu secret ? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme, mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. La parole de Dieu est une source abondante de vie. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous met en contact, en relation avec Dieu. Dieu nous parle. Et ça, c'est une source de vie quand on écoute ce que Dieu a à dire. Et puis, c'est aussi une source abondante qui nous purifie. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous l'acceptons dans notre cœur, elle purifie nos pensées, elle lave, elle a cet effet purifiant, elle change notre façon de penser et donc aussi de parler. Et nous trouvons ici dans ce passage des scribes et des pharisiens de Jérusalem. Les scribes, ce sont des gens qui avaient l'habitude de recopier l'Ancien Testament, de recopier la parole de Dieu à la main, avec beaucoup de soin. Il fallait que ce soit bien écrit. Il ne fallait pas qu'il y ait de fautes. Et pourtant, ces scribes ne comprennent pas la parole de Dieu. Pourquoi ? Elle n'a pas touché leur cœur. Cette parole n'a pas rafraîchi leur cœur. Nous allons le voir dans ce passage. Et donc, il est possible d'être en contact avec la parole de Dieu et de la connaître, et même très bien, mais de ne pas comprendre ce que Dieu veut. Et ce sont des scribes et des pharisiens de Jérusalem. Ils arrivent et ils parlent. Pourquoi tes disciples ? Ils accusent le Seigneur Jésus. Ils attaquent le Seigneur Jésus. Pourtant, le Seigneur Jésus, il est la parole faite chair. Il est Dieu lui-même venu en personne. Il est la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit, tout ce que le Seigneur Jésus dit, c'est Dieu qui le dit. Eh bien, ici, il dit : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne lavent pas leurs mains avant de manger du pain. Ici, ils accusent le Seigneur Jésus de ne pas suivre les traditions des hommes. les traditions des anciens, parce que les anciens, leurs pères, leurs grands-pères, etc., leurs ancêtres, avaient décidé qu'il fallait absolument faire ceci ou cela. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Et ils s'attachent à une forme extérieure. Se laver les mains, quelque chose d'extérieur, c'est dans le principe. Et le Seigneur répond, verset 3, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ?» Et le Seigneur leur donne un exemple. Dieu a dit ça, et vous ajoutez à ce que Dieu a dit. C'est quelque chose de grave, en fait, d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Dieu avait dit « Tu honores ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meurt de mort. » Et puis, ces hommes avaient ajouté à la parole de Dieu, et c'est un grand danger qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu. On ajoute. Et quand on ajoute à ce que Dieu dit, ce n'est déjà plus ce que Dieu a dit. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden. Quoi Dieu a dit ? Mais non. Et il ajoute. Non, non. Dieu a oublié de vous dire ça. Il ne vous l'a pas dit parce que ce n'est pas dans son intérêt à lui. Mais c'est dans votre intérêt à vous. Voilà le principe du serpent. C'est ce qu'il a dit à Ève. Et alors on ajoute. On dit oui, Dieu ne l'a pas dit, mais quand même, c'est logique. Et puis c'est comme ça qu'on a toujours fait, ou bien c'est comme ça que les autres le font. Et puis c'est très important ce que le Seigneur Jésus dit ici. Au verset 6, il dit « Et vous, vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. » À cause de votre tradition. Et donc, ajouter à ce que Dieu dit et en faire une tradition de forme, une tradition extérieure, alors que le cœur n'est pas engagé, il est dit ici, vous annulez le commandement de Dieu. Et il est possible qu'on en arrive à annuler la parole de Dieu, c'est-à-dire... Annuler, ça veut dire qu'elle n'a plus de valeur. Elle compte pour zéro, on n'en tient plus compte. Ici, les pharisiens et les scribes, ils tiennent compte de la tradition de leur père, mais plus de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on trouve chez les scribes et les pharisiens, mais aussi dans notre cœur naturel. On a cette tendance à vouloir faire taire ou annuler ce qu'il y a dans la parole de Dieu qui ne nous arrange pas. Et le Seigneur dit non. Il leur dit hypocrite. C'est quoi un hypocrite ? C'est quelqu'un qui veut donner une apparence où il n'y a pas la réalité. Je veux donner l'apparence que je suis très proche de Dieu, que je suis très spirituel. Et pourtant, je n'écoute pas ce que Dieu dit. Je ne fais pas ce que Dieu dit. Si je veux te faire croire que je suis spirituel et que je suis proche de Dieu et que ce n'est pas vrai, je suis un hypocrite. Et le Seigneur lit dans les pensées des hommes. Et la parole, il nous est dit en hébreu, elle est comme cette épée à deux tranchants qui distingue les intentions du cœur. Et le Seigneur est la parole. Il leur dit, donc vous êtes des hypocrites. Vous dites que vous représentez Dieu, que vous êtes spirituel, mais vous ne faites pas ce qu'il dit. Vous faites autre chose qui vous arrange. Vous ne rendez pas gloire au Seigneur, vous ne rendez pas gloire à Dieu, vous cherchez votre propre gloire en ayant l'air spirituel, en ayant l'air beau et grand devant les autres. Et cela, c'était, Dieu l'avait prévu. Au verset 7, donc Matthieu 15, verset 7, Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » Et il est possible que je fasse des prières, public et que j'invoque le nom du Seigneur et que mon cœur soit bien éloigné du Seigneur. C'est sérieux. C'est sérieux. Il faut faire attention. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans l'Évangile, dans ce même Évangile, au début. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. À la fin, il y en aura qui diront « Mais nous avons parlé en ton nom. » Et le Seigneur dit « Je ne vous connais pas. Vous avez utilisé mon nom, mais vous n'étiez pas proche de moi. » Et c'est le même principe ici. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Ils m'honorent en vain. » Si nous parlons et que nous voulons faire croire aux autres que nous sommes spirituels, mais que notre cœur est éloigné du Seigneur, nous parlons en vain. Ça ne sert à rien pour le Seigneur. Et il dit ici en plus, au verset 9, « enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. » Et on a oublié la parole de Dieu quand on s'attache au commandement des hommes. Non plus le commandement de Dieu. Le Seigneur a dit aussi dans l'Évangile selon Jean, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. » À quoi est-ce qu'on voit que quelqu'un aime le Seigneur Jésus ? Il faut que ça se voit. Il faut que les autres voient que je mets la parole du Seigneur en pratique. Je m'applique à faire ce qu'il dit. Alors oui, je vois bien, il aime le Seigneur, il fait ce qu'il demande. Mais si je dis, moi j'aime le Seigneur, moi, plus que les autres, mais je ne fais pas ce qu'il dit, hypocrite. Et puis, enseignant des doctrines de commandement d'homme. Et alors peut-être que je dis que j'aime le Seigneur et je suis plutôt les commandements d'homme plutôt que les commandements du Seigneur. Alors les commandements d'homme, il y en a beaucoup. Il y en a tout plein. Je peux même en ajouter, en inventer. Ceux qui m'arrangent, ceux qui m'honorent, ceux qui me rapportent quelque chose, eh bien je vais ajouter au nom du Seigneur, peut-être, en apparence, ce sont des commandements d'hommes. Si ce n'est pas le Seigneur qui est honoré au travers de ce que je dis, de ce que je commande, c'est un commandement d'homme. Et en s'attachant au commandement d'homme, on oublie la parole de Dieu. Comme le Seigneur le dit ici, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions d'homme. Alors le Seigneur appelle la foule, il dit « Écoutez et comprenez. » Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Et le Seigneur, après ce dialogue avec les scribes et les pharisiens qui ont besoin d'être repris par le Seigneur, et nous parfois aussi, le Seigneur ensuite veut faire comprendre aux foules, à l'ensemble, qu'il ne faut pas toujours s'axer sur les choses matérielles. Il dit, il faut bien comprendre. Je ne vous parle pas que des choses matérielles. Il faut comprendre ce que je vous dis a une portée spirituelle. C'est pareil. Nous faisons des actes physiques pour le Seigneur, mais il faut qu'ils aient une portée spirituelle. Par exemple, nous rompons le pain. Nous buvons à la coupe. C'est un acte physique. Mais ce qui est important, c'est la portée spirituelle. Ce n'est pas simplement de le faire, juste pour le fait de le faire. Il faut le faire parce que notre cœur y donne une portée spirituelle pour la gloire du Seigneur. Écoutez et comprenez. Ici, donc, ce principe-là, le Seigneur l'applique en disant « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. » Il parle d'une manière spirituelle. Ce n'est pas parce que je mets de la saleté dans ma bouche, par exemple, que je deviens souillé spirituellement. Non. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche des hommes. C'est les mauvaises paroles. Par exemple, si je dis une mauvaise parole à quelqu'un, ça va toucher son cœur. ça va toucher son âme. Il va peut-être être tenté de me répondre mal. Ça, c'est de la souillure. Et s'il me répond mal, c'est de la souillure. Et donc ici, le Seigneur dit « Écoutez, comprenez ». Alors pour comprendre, c'est très important, il faut d'abord écouter. Parce que parfois, on est pressé, on n'écoute plus ce que Dieu dit. On veut avancer, mais pour poser les bons choix et faire les bonnes choses et dire les bonnes choses qui sont bonnes devant Dieu, il faut comprendre ce que nous disons ou ce que nous répétons. Et pour comprendre, le Seigneur dit d'abord écoutez. Écoutez et comprenez ce qui sort de la bouche des hommes. Alors qu'est-ce qui sort de notre bouche ? Ça, c'est une bonne question. Nous savons que ce qui sort de la bouche de Dieu est bon. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu dit des choses vertueuses, des choses bonnes, pas toujours agréables, mais qui sont vertueuses, qui vont nous aider à nous purifier, à nous rendre plus propres, plus soigneux dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir ou de parler. Mais ce qui sort de la bouche des hommes, elle est à la responsabilité des hommes. Et je peux dire des choses mauvaises, et ça va multiplier la souillure autour de moi. Mais comme l'apôtre Jacques le dit, la langue est un petit membre, et il peut mettre le feu. Avec des paroles que nous disons, nous pouvons louer Dieu, donc dire des bonnes choses, et en même temps le déshonorer et pécher. Et là, nous avons cette responsabilité de parler des choses de Dieu ou de ce que Dieu veut que nous communiquions, mais avec le cœur engagé pour lui et proche de lui. La parole nous dit aussi que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Et ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu de moi, en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà de quoi nous devons nourrir nos pensées, de toutes ces choses qui sont vraies, pures, sans souillure. Ces choses-là, nous les avons entendues, il nous est dit, de l'apôtre Paul, elles concernent le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous avons entendu à propos du Christ, du Seigneur, eh bien ces choses-là, elles doivent occuper nos pensées, elles vont toucher nos cœurs. Et notre cœur va être rempli que la parole, il est dit aux Colossiens, que la parole du Christ habite richement en vous. Et qu'est-ce qui s'ensuit ? Alors nous allons psalmodier dans nos cœurs, il est dit. C'est-à-dire, nos cœurs vont chanter. Peut-être pas à haute voix, mais notre cœur va se mettre à être joyeux. Et notre bouche, peut-être aussi, va exprimer ces choses-là. Alors, nous revenons à Matthieu 15. Au verset 12, alors les disciples s'approchent du Seigneur Jésus et lui disent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ?» Pourtant, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a parlé, Dieu a parlé. Et souvent, la parole de Dieu, elle choque parce que c'est Dieu qui parle. Ce ne sont pas des paroles d'hommes. Dieu ne va pas parler pour nous flatter. S'il y a quelque chose à corriger, Dieu va le dire, clairement. Il y a toujours aussi son amour qui est derrière, c'est sa bienveillance. Mais Dieu, il exhorte, il est écrit à Timothée, « Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre. Pourquoi ? Pour que l'homme de Dieu soit accompli en justice pour nous. Nous avons besoin d'être repris par la parole de Dieu, Pourquoi ? Pour nous rendre plus conformes à sa pensée, à sa volonté, pour que l'homme de Dieu soit accompli en toutes choses, pour que nous puissions... L'homme de Dieu, c'est le nouvel homme qui est en nous, qui prend ce qui vient de Dieu, et pour mettre en pratique. Et alors, c'est le chemin de la bénédiction. Mais ceux qui se croient justes par eux-mêmes, propre justice, n'acceptent pas. En tout cas, la chair n'acceptera jamais ça. Et la chair va être scandalisée par ce que Dieu dit, à commencer par le message de la repentance. Repentez-vous. Ça, c'est le premier message qui est donné aux incrédules dans le monde. Repentez-vous. Oh, pas question. Je ne suis pas si méchant que ça. Je ne suis pas si mauvais que ça. C'est scandaleux de dire que je dois me repentir. Il y a des gens qui parlent comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Mais la parole de Dieu, elle peut choquer, mais elle est juste. Elle est pure. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? Alors une autre question qu'on peut se poser, est-ce que nous allons nous taire ? Alors il y a un moment de se taire, il y a un moment de parler. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous allons être dirigés pour savoir quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut parler. Mais est-ce que nous allons taire la parole de Dieu pour ne pas froisser la personne qui a besoin d'entendre ça ? Le Seigneur ne s'est pas tu. Bien sûr, le Seigneur était parfaitement dépendant. Mais devant ces pharisiens et ces scribes, il ne s'est pas tu. Ils ont besoin d'entendre ça. Parfois, peut-être, nous pourrions dire, oui, je ne veux pas fâcher ces incrédules, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui... un rabat-joie ou quelque chose, donc je ne vais pas leur dire qu'ils doivent se repentir. Je ne veux pas me mettre en mauvaise odeur auprès de mes enfants ou auprès des membres de ma famille qui ne veulent pas entendre parler de la repentance. Ils ont besoin d'entendre ça. Et que le Seigneur nous aide à être dépendants pour le faire de la bonne manière, avec grâce, au moment opportun. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? Et le Seigneur Jésus répond : toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Un peu mystérieux. Le Seigneur Jésus parle de plantes dans ce contexte-là. Mais oui, il ne parle pas de choses matérielles, il parle encore une fois à un niveau spirituel. Il y a cette parole de Dieu, elle est comme une graine, porte la vie. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Le semeur sort, il sème quoi ? Le Seigneur le dit dans l'explication de la parabole. Il sème la parole de Dieu. Et puis, il y a la semence qui tombe dans la bonne terre. Qu'est-ce qui se passe ? Si elle tombe dans la bonne terre, elle prend vie. Elle prend vie. Et il y a des racines qui commencent à se former et il y a du fruit qui pousse et qui se voit. D'abord les racines, ensuite le fruit. Qui a semé cela ? C'est le Seigneur. Ici, le Seigneur attribue ce travail à son Père. C'est Dieu. Alors ce qu'il dit, le Seigneur, ici, c'est que il y a différentes plantes, il y a différentes racines. Si c'est le Père qui a semé la parole et cette parole elle a pris racine dans ton cœur, eh bien, elle ne sera pas déracinée. Au contraire, elle sera enracinée. Aussi, aux Colossiens, il est dit, l'apôtre Paul dit que votre cœur, vos pensées soient enracinées en Christ. Il est la vie. Ceux-là qui ont pris racine en ayant entendu et accepté la parole de Dieu, qui est cette graine de vie, eh bien, ne sera pas déracinée. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Celle-là, elle sera déracinée. Elle n'est pas enchâssée dans la parole de Dieu. Elle n'a pas la vie. Et ceux-là qui n'ont pas la vie, ceux qui seront déracinés, qui peut-être ont une apparence. Vous savez, il y a la parabole aussi en Matthieu 13, il y a la parabole de ce champ avec le froment et l'ivraie. Il y a d'abord que des bonnes choses dans ce chant. Et puis, il y a l'ennemi qui vient semer autre chose que la parole de Dieu. Ça prend aussi une certaine forme de racine et ça monte. Au début, on ne fait pas la différence. Au bout d'un certain temps, on se rend compte que ce n'est pas la même chose. Mais ce qui n'est pas été planté par Dieu, à la fin des jours, il est dit, sera déraciné et jeté au feu. Et celui qui n'a pas cette semence divine en lui ne peut pas comprendre les Écritures. Ils sont scandalisés par la parole de Dieu. Alors c'est ce que le Seigneur répond ici. Il lui dit, sais-tu que tu as scandalisé ces hommes en parlant? Il lui dit, mais ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la vie de Dieu. Comment pourrait-il en être autrement? Les gens qui n'ont pas la vie de Dieu ne peuvent pas accepter ce que Dieu dit. Ensuite, le Seigneur dit, au verset 14, laissez-les. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort. Laissez-les. C'est sérieux. Quand Dieu dit à propos de quelqu'un, en fin de compte, laisse-le. Il ne veut pas écouter. Dans Job chapitre 33, verset 29, il est dit, voilà, Dieu opère toutes ces choses deux fois, trois fois avec l'homme, pour détourner son âme de la fosse, pour qu'il soit illuminé de la lumière des vivants. Il est aussi écrit dans l'Ancien Testament, Dieu parle une fois, deux fois, et on n'y prend pas garde. C'est très sérieux. Dieu parle, et ici il est dit, Dieu opère toutes ces choses deux fois, trois fois avec l'homme. Dieu prévient. Dieu parle à tous les hommes. Pourquoi ? Pour détourner son âme de la fosse. Parce qu'il va droit vers un danger qu'il ne voit pas. Pour délivrer son âme de la fosse. Pour qu'il soit illuminé de la lumière des vivants. La lumière des vivants, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Il est la lumière de ceux qui vivent. Nous qui, par grâce, avons accepté le Seigneur Jésus, il est entré dans notre vie comme cette lumière, comme celui qui éclaire toute chose. Et nous sommes maintenant appelés vivants. Nous sommes des vivants. Et lui, il est la lumière des vivants. Et nous voyons cette fosse de laquelle nous nous sommes détournés maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Et Dieu parle une fois, deux fois. Et ici, en Matthieu 15, le Seigneur a déjà parlé plusieurs fois aux pharisiens. Ils ne veulent pas changer. Et le Seigneur dit à ses disciples, laissez-les. Ce n'est pas la peine de discuter. Évitez les débats avec ceux qui s'opposent aux Écritures, avec ceux qui s'opposent à Dieu. Ça ne sert à rien d'entrer dans des grands débats pour essayer de les convaincre. Parce que tant que le cœur de l'homme reste dur et résiste à la grâce, tant que le cœur de l'homme refuse de se repentir devant Dieu, que pouvons-nous faire? D'ailleurs, cet enseignement d'éviter, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, de la part de l'apôtre Paul, où il est dit en 2 Timothée, et là il est question d'une personne en particulier, 2 Timothée 4, 14, Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Ici, on a un exemple très, très précis, très pratique. Alexandre, il n'est pas dit le frère, il est dit l'ouvrier en cuivre. Il a montré beaucoup de méchanceté. Il faut se garder de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Et nos paroles, l'apôtre Paul, les paroles qu'il annonçait, étaient la parole de Dieu. Eh bien, ça peut être contre-productif d'entrer dans des débats. Ça peut même être dangereux d'entrer dans des débats contre des hommes tels que celui-ci, tels qu'Alexandre, qui montrent beaucoup de méchanceté. Le Seigneur dit, garde-toi de lui. Et d'ailleurs, cet enseignement d'éviter, on le retrouve au chapitre 2, donc 2 Timothée 2, verset 16, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole les rongera comme une gangrène, desquelles sont Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité. » Donc il faut éviter, c'est clairement dit ici, les discours vains et profanes. Les profanes, ça veut dire qui s'opposent à Dieu, qui dit que ce que Dieu dit, ça vient de la chair. Il y en a qui disent ça. Pas comme ça, forcément, mais ils disent, oui, mais l'apôtre Paul a écrit ça, mais c'est parce que il avait cette façon de voir à lui. Nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas la façon de voir de l'apôtre Paul. Alors, ça voudrait dire qu'on attribue la parole de Dieu à une pensée humaine, à un point de vue humain. Il faut s'éloigner, se garder et ne pas entrer dans ce genre de débat ou de discours profane. Aussi en Tite, si on tourne deux pages, on arrive en Tite, chapitre 3, et au verset 9, il est dit « Évite les folles questions, les généalogies, les contestations, les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Alors nous n'allons pas entrer dans les discussions et les débats quand il s'agit de la parole de Dieu. Ce n'est pas bon. Si Dieu le dit, ça suffit. Et le Seigneur dit aussi en Matthieu 7, on peut le lire, ce sont des paroles très fortes, au verset 6, « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Attention, ce que le Seigneur dit ici, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas présenter l'Évangile, au contraire. Présenter l'Évangile à des incrédules, il faut absolument le faire. Il ne faudrait pas se dire « moi je n'évangélise pas parce qu'il ne faut pas jeter des perles aux pourceaux ». Ce n'est pas ça que le Seigneur veut dire dans ce contexte-là. Annoncer Jésus-Christ sauveur, annoncer la repentance, annoncer la grâce, le salut, l'amour de Dieu, il faut le faire. Ce que le Seigneur veut dire là, c'est que de ne pas alimenter les débats, les questions vaines, les questions folles, comme nous l'avons lu dans les Épîtres, avec des gens qui s'opposent consciemment et sciemment à la parole de Dieu. Et donc, débattre avec des hommes qui sont spirituellement morts ou qui sont opposés à la vérité, le Seigneur nous dit de ne pas le faire. Laissez-les. Alors ensuite, il continue. Nous revenons à Matthieu 15. Il leur dit, laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Nous retrouvons ici la fosse. Est-ce qu'un aveugle peut éviter un trou dans la route? Non. Il va tomber dans le trou. Un aveugle va tomber dans une fosse si elle est devant lui. Si un aveugle avance en pensant que tout va bien, ne se rend pas compte de son problème, elle va tomber. Et ici, ce n'est pas seulement un aveugle qui tombe dans une fosse, c'est un aveugle qui emmène un autre, et ils tomberont tous les deux dans la fosse. Alors, c'est quoi un aveugle au point de vue spirituel? C'est quelqu'un qui ne voit pas ce que Dieu dit, qui ne comprend pas ce que Dieu dit. Au psaume 119, il est écrit « Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. » Voilà, quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui veut trouver des réponses à ses questions, il va les trouver, il va comprendre le chemin à suivre. Mais un aveugle spirituel, c'est quelqu'un qui, même s'il a lu le texte, ne comprend pas. Nicodème était aveugle avant de rencontrer le Seigneur Jésus en Jean chapitre 3. Pourtant, il connaissait, il était docteur de la loi, il connaissait le texte, mais encore une fois, le Seigneur lui parle de nouvelle naissance et ses pensées sont simplement physiques et matérielles en disant « Mais comment un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau ?» Il est spirituellement aveugle, il ne comprend pas. Le Seigneur lui dit « Non, je ne parle pas de naissance physique, je parle d'un niveau spirituel. » On peut être aveugle pour différentes raisons. Soit on n'a pas entendu ou on n'a pas eu d'explication. Et au début, on peut être aveugle pendant un moment, jusqu'au moment où on entend la parole de Dieu ou l'explication de la parole de Dieu. Et alors, enfin, on voit. Oui, je vois ce que Dieu veut dire. Ou alors, on n'a pas envie. Si on peut être aveugle spirituellement quand on croit qu'on peut y arriver tout seul. Moi, je peux me sauver moi-même. Je n'ai pas besoin de Christ pour aller au paradis, pour aller au ciel. Moi, je vais faire des bonnes choses, je vais faire des bonnes œuvres, et alors je mérite d'aller au ciel. Ça, c'est de l'aveuglement spirituel. Ça veut dire que je n'ai rien compris. Je ne vois pas ce que Dieu veut, je ne vois pas ce que Dieu dit. Des pensées, la propre justice, ça, c'est de l'aveuglement spirituel. L'orgueil nous rend complètement aveugles. Quand on est orgueilleux, On ne comprend plus rien de spirituel. On ne regarde que soi. Alors, quand on regarde soi-même, on voit plus ce qui se passe autour de soi. Mais celui qui regarde au Seigneur Jésus, il voit la lumière. « Je suis la lumière du monde », le Seigneur dit. Et celui qui marche avec moi ou après moi ne marchera plus dans les ténèbres. Alors suivons cette lumière. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui met toutes choses en lumière. Quand il parle. Et quand nous cherchons le Seigneur Jésus au travers des textes, des chapitres et des versets que nous lisons, nous comprenons beaucoup mieux ce que Dieu dit. Parce que souvent, je peux chercher, c'est pas faux, pas forcément faux, mais je peux chercher, je dis, je vais lire la parole de Dieu parce que je cherche réconfort pour moi. D'accord, Dieu va donner. Mais si je cherche Jésus-Christ, il va donner beaucoup plus. Parce que non seulement j'obtiendrai le réconfort en trouvant Christ, mais je trouverai encore beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas pensé qu'en cherchant qu'une chose précise pour moi. C'est l'action de l'Esprit. Jésus-Christ, il nous est dit dans l'Évangile, c'est la clé de la connaissance. C'est-à-dire que si je ne n'envisage pas Jésus-Christ en lisant la Bible, je ne vais rien comprendre. Il est la clé de la connaissance. Si j'ai reçu cette clé, à chaque fois que je veux ouvrir un verset, un chapitre, je dois y introduire Christ. Et alors, ça va s'ouvrir devant moi. Peut-être pas tout de suite, mais dans la dépendance, au moins quelque chose qui va m'encourager pour continuer et pour avancer dans le chemin. Et donc, ces pharisiens, voilà, le Seigneur dit, ce sont des aveugles. Ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Ils sont aveuglés par leur orgueil. Orgueil spirituel, au nom de Dieu. C'est sérieux. Et ils emmènent ceux qui les écoutent vers une fosse. Parce que ceux qui les regardent, eux, plutôt que de regarder le Seigneur, ils sont également aveugles. Si je regarde les hommes plutôt que de regarder au Seigneur, je deviens aveugle au niveau spirituel. Je perds Christ de vue. Si je perds Christ de vue, je perds le chemin de ma vie de chrétien de vue. Et je peux suivre alors n'importe qui, une fois là, une fois là, une fois là, jusqu'à ce que je ne sache plus du tout où j'en suis. Mais heureusement, la grâce de Dieu est merveilleuse, elle est infinie. Oui, le Seigneur parle des pharisiens ici en disant « hypocrites, ce sont des aveugles ». Mais nous allons lire en acte 26 l'exemple, le contre-exemple d'un pharisien. En acte 26, verset 15, il s'agit de Saul de Tarse, pharisien, élevé au pied de Gamaliel, qui était tellement aveugle spirituellement que quand Étienne a été lapidé à mort, il était consentant. Il était d'accord. C'est très beau cet exemple d'Étienne, ce martyr, qui lui, sous les jets de pierre, il voit. Il voit. Qu'est-ce qu'il voit, Étienne, quand il est en train de mourir sous les pierres qu'on lui jette ? Il voit le Seigneur Jésus dans le ciel et il s'endort. Les pharisiens ne voyaient pas. Les pharisiens ne voyaient que les pierres qu'ils allaient ramasser pour les jeter sur Étienne. Ils ne voyaient pas le Seigneur au travers d'Étienne. Ils avaient la haine contre le Seigneur. Et il y avait ce Saul de Tarse qui avait cette même haine contre ceux qui représentaient le Seigneur et qui est allé avec des lettres jusqu'à jusqu'à Damas pour mettre des chrétiens en prison. Et il est dit ici en acte 26, nous lirons au verset 14, et comme nous étions tombés par terre, j'entendis une voix qui me parlait et qui disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Et moi je dis, qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin. Et les choses que tu as vues et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai, et en te retirant du milieu du peuple et des nations vers lesquelles moi je t'envoie pour ouvrir leurs yeux. En voilà la grâce de Dieu, magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle choisit un de ces pharisiens-là, aveugle, au point de vouloir lapider les chrétiens. Pourquoi faire ? Elle l'a rendu aveugle pendant 3 jours, physiquement. Mais pendant que le Saul de Tarse était aveugle physiquement, il a compris beaucoup de choses de la part de Dieu. Il a vu enfin le Seigneur, après qu'il lui soit apparu sur ce chemin de Damas. Et le Seigneur lui donne une mission. Et quelle est cette mission ? Nous allons simplement le relire. Et nous sommes au bénéfice, nous, aujourd'hui, de ce que le Seigneur a fait au travers de cet homme qui était aveugle et qui a trouvé la vue en rencontrant le Seigneur Jésus, puisqu'il nous a révélé au travers de beaucoup d'écrits du Nouveau Testament la lumière qui vient de Dieu. Il est dit ici, je relis, à partir du verset 16, « Je te suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin. Tu vas témoigner. » Un témoin, c'est quelqu'un qui répète ce qu'il a vu. Et des choses que tu as vues et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai. Tu m'as vu, tu me verras encore spirituellement et tu répéteras ce que moi je te dis, ce que je te communique. Et l'apôtre Paul a dit même dans ses épîtres, j'ai été ravi au troisième ciel, dans cette lumière inaccessible. Et il a entendu des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter. Et ensuite, il est dit là, « Je t'enverrai te retirant du milieu du peuple et des nations vers lesquelles moi je t'envoie pour ouvrir leurs yeux. » Et voilà quelle est la grâce de Dieu. Cette parole qui maintenant nous a été révélée en grande partie dans le Nouveau Testament au travers de ce pharisien qui a rencontré le Seigneur Jésus.